BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
BFM Bourse est 100% uploadé. On est parti, 2h30 d'autonomie totale au seul rythme des marchés. Bienvenue à tous. Les marchés européens, ils sont stables aujourd'hui. Le CAC 40 à moins 0,02 avant le début du forum de Cintra. Tout à l'heure, après 18h, Christine Lagarde prononcera le discours inaugural. On parlera aussi à nouveau de Excel et du rapprochement attendu avec Safran. Okay. D'abord, effectivement, c'est Wall Street qui est en train d'ouvrir en direct votre shot d'Amérique au quotidien. Et notre Dream Team aujourd'hui pour suivre cette séance. Carl Edon, gérant Cholet Dupont-Houdard. Bonjour Carl.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue. Et en fil rouge, il est là, vous l'attendiez, Antoine Larigauderie. Rebonjour Antoine.
Bonjour.
Je dis vous l'attendiez, c'est plutôt moi qui vous attendais parce que ce matin, vous étiez déjà là. 11h midi, une première ration dans Tout pour investir, déjà disponible en podcast et replay.
Ouais, beaucoup, beaucoup travail hein, sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, la chaîne de valeur, etc. Les opportunités d'investissement. On a fait aussi pas mal de pratico-pratiques sur, après la déclaration d'impôt, ouais, il y a des choses à vérifier. Surtout quand on a des actifs immobiliers qui sont imbriqués dans des sous-segments d'activité peut-être des fois un petit peu complexes. Donc ça, il faut faire attention. Même après la déclaration, il faut veiller au grain, faire appel aux spécialistes du secteur. Tous les bons conseils à retrouver, évidemment, en podcast, en replay, dans Tout pour investir.
Ouais, et l'ouverture là, des marchés américains, début de cette séance, cette nouvelle semaine qui sera courte, hein, cette semaine américaine, puisque alors la fête nationale, le 4 juillet, sera samedi, mais dans ces cas-là, la veille aussi est fériée, donc il n'y aura pas de séance vendredi aux États-Unis en fait.
Ouais, c'est technique, il faut retenir, mais effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on aura les chiffres de l'emploi américain, sera le gros chiffre, et là du coup, ils seront publiés jeudi.
Oui.
Le Nasdaq, lui, ouvre en forte hausse, plus 0,94%, on est à 25 535 points, plus 0,32 pour le Dow Jones, 52 042, ça nous donne un S&P 500 en progression de 0,56% à 7395 points. En tout cas, ça pointait en avant-marché, hein, cette tendance haussière des marchés américains, puisque le CAC 40 a ouvert quand même en baisse. Hein, ce matin, on était en repli. Là, on est quasiment à l'équilibre, 0,03%, avec une très belle hausse du compartiment tech. L'Euronext Tech Leaders gagne 1%.
Avec un contexte quand même géopolitique particulier, car on a des cours du pétrole qui remontent aujourd'hui, qui reprennent le chemin de la hausse. Le Brent à plus de $73, c'est pas une forte hausse, hein, mais quand même, on a arrêté de baisser, voire on remonte un peu, parce que ce week-end, les frappes ont repris. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau cessez-le-feu pour reprendre les discussions. C'est difficile d'y voir très clair sur les rapports entre Américains et Iraniens.
Alors c'est difficile d'y voir clairement, parce qu'on doit être à la énième pause dans les discussions, dans les négociations, et elles se passe souvent de la même façon. En fait, on remarque que les frappes américaines ont souvent lieu le week-end. Est-ce que vous avez remarqué? Elles ont lieu le week-end et il y a souvent un retour et des excuses le dimanche avant que les marchés ouvrent. On a quand même l'impression que Trump ménage un peu sa bête. Qu'est-ce qui se passe? Les Iraniens, alors on n'est pas dans les négociations bien sûr, mais on a l'impression que les Iraniens essayent d'avoir l'autorité sur le détroit. Ce que les Américains réfutent bien évidemment parce que ce sont des eaux internationales et ils voudraient que la navigation puisse aller librement sur ce détroit comme sur les autres. Donc je pense que c'est la négociation. On voit que les Iraniens appellent à ce que Israël arrête d'attaquer le Liban. En même temps, le Hezbollah, qui est plutôt dans la partie libanaise, lui dit que l'accord, il n'en veut pas. Donc on voit qu'il y a quand même toujours un peu ce panier de crabe. La guerre Israël-Liban, ça fait 80 années que ça dure. Enfin, Hezbollah, Israël...
Ouais.
Est-ce que Trump pourra rectifier ça dans l'année? J'ai des doutes. La question, c'est plutôt, je pense, une posture de négociation et on voit que ça ramène pas très loin.
Et on se dit quoi sur le pétrole alors qu'on peut miser sur une poursuite à la baisse du pétrole parce que voilà, il faudra qu'ils s'entendent parce qu'il y a des élections de mi-terme quand même qui approchent pour Donald Trump et il a besoin d'avancer ou on se dit la baisse du pétrole est derrière nous là parce qu'on a fait le chemin?
Alors, je vais répondre à côté de votre question, mais ça va vous donner des éléments. C'est-à-dire qu'on préfère se positionner sur le pétrole après la panique. C'est-à-dire quand le marché panique sur une reprise de l'escalade, c'est plutôt le moment où on va aller, nous, jouer la détente. Parce qu'en fait, elle arrivera. Je veux dire, on peut pas imaginer que cette paralysie dure éternellement. C'est ce qu'on avait fait sur les derniers pics. Soit parce qu'on avait des actions totales qu'on voulait s'en alléger, soit parce qu'on voulait jouer via d'autres placements ce scénario-là. Aller aujourd'hui jouer le fait que le pétrole va continuer de baisser, on a un risque qui est plutôt symétrique, c'est-à-dire que il y a une prime sur le pétrole. Avant qu'il y ait l'escalade, cette guerre Iran-US, le pétrole, tout le monde tablait sur un baril à $50 parce qu'il y avait des surcapacités, parce que la Chine ralentissait, qu'elle consommait moins. Aujourd'hui, on a toujours cette prime. Il y a toujours un risque d'escalade. Je pense que les Iraniens ont montré déjà par le passé qu'ils étaient capables de tenir des positions de négociation très longtemps. Et ils savent que le temps joue en leur faveur. Trump l'a très bien compris, les menaces et les frappes sont aussi dans cette optique-là, c'est-à-dire dans l'optique de dire que s'il n'y a pas d'accord prochain, il n'aura aucune hésitation à continuer à aller bombarder l'Iran. Et donc, je pense qu'on est plutôt dans un jeu de dupes qui fait des morts et des dégâts, certes. Moi, je vois plutôt une détente de façon quasi certaine à long terme. À court terme, c'est toujours très compliqué de se positionner. Bon. Mais s'il y avait une panique, on aurait plutôt tendance à rejouer à nouveau la détente.
Bon, mais en fait, on sent que c'est du côté de la tech qu'on a une vraie carte dans son jeu, là, parce que c'est la tech qui fait la tendance, c'est la tech qui fait effectivement les performances des portefeuilles, voilà, selon les degrés d'exposition. Il se trouve que sur la semaine écoulée, le Nasdaq 100 a perdu 4%, avec même les semi-conducteurs en difficulté. Ah oui, les semi-conducteurs, mais pas les cartes mémoire. Alors voilà, on a vu là quelque chose se jouer. Et vous avez, vous, ce week-end, repéré ce rapport intéressant sur les engagements en matière d'investissement dans l'intelligence artificielle. Quelles leçons vous tirez de ce nouveau rapport-là ?
Alors, c'est effectivement la BIS qui a produit un rapport. Ouais. Alors, il n'y a pas énormément de nouveautés dans ce rapport, parce qu'en fait, ce sont beaucoup de choses qui ont déjà été mises publiquement, c'est-à-dire les chiffres des engagements, les chiffres des CAPEX, des engagements, des investissements, notamment des hyperscalers, c'est-à-dire les gens qui sont en début de chaîne et qui vont financer les data centers, grosso modo. Et donc, de ces investissements découlent sur toute la chaîne de valeur les gains de sociétés dont on entend parler depuis quelques mois ou depuis quelques années, à tort et à travers, c'est-à-dire les Micron, Skynix. On a tous mis la Corée sur une carte boursière, je veux dire. Les gens ont découvert Skynix. Le rapport, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les investissements, ils sont massifs. Ça, on le sait. Il rappelle le côté circulaire de ces investissements, c'est-à-dire qu'un hyperscaler va prendre une participation dans un labo IA. Cet argent va être utilisé pour acheter les puces ou de la capacité de calcul à l'hyperscaler lui-même. On voit qu'il y a un côté un peu malsain. Bon, ça, on le savait déjà, on avait déjà cette vue-là. Ce qu'il rappelle quand même, c'est la limite. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive dans un monde où les cash flows des hyperscalers ne permettent plus de financer ces investissements. En parallèle de ça, on voit le prix de la mémoire, le prix des mémoires HBM, dont on parle régulièrement en ce moment, qui explose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on arrive dans un monde où, si aujourd'hui Nvidia ne veut pas rogner ses marges, le prix, parce que les mémoires HBM sont intégrées dans les GPU et dans les XPU, c'est-à-dire tous les processeurs de calcul, et donc s'il veut pouvoir retranscrire la hausse du prix de la mémoire dans sa puce à lui, dans son GPU, l'explosion du prix, elle est fantastique parce qu'il y a 75% de marge brute chez Nvidia. Et donc, il faut retranscrire la marge avec. Donc, la marge d'Nvidia, elle va probablement, et des gros producteurs de puces, il y en a plein, devrait être amenée à baisser un peu du fait de cet effet prix. Et qu'est-ce que dit le rapport ? Il dit qu'en fait, c'est le cycle du capital classique, c'est que la rentabilité extrêmement élevée qu'on voyait dans n'importe quelle activité, en fait, une rentabilité très élevée appelle les capitaux. Les capitaux appellent de nouveaux moyens de production, appellent de nouveaux concurrents, parce qu'on a tous envie d'avoir une société qui produit 75% de marge, c'est mirobolant. Et donc cet effet, il est classique, c'est-à-dire qu'il va venir pressuriser les marges, il va venir pressuriser les ventes. Et dans tout ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme aujourd'hui, ce ne sont plus les free cash flow qui financent, c'est de la dette qui est levée. On parlait beaucoup de l'introduction en bourse de SpaceX. Google, Alphabet, a levé 80 milliards en même temps, c'est encore plus que le montant de l'IPO. Google a levé 80 milliards pour financer ses investissements. Il y a beaucoup de dettes qui sont émises dans beaucoup de devises différentes et ces CAPEX ne vont pas s'arrêter. Donc en fait, demain, on a systémisé, si je peux dire, les engagements et les investissements de par le monde. Aujourd'hui, on y reviendra peut-être après sur les autres sujets, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en fait, le marché fait parler trackers beaucoup, énormément, et donc il y a des acheteurs forcés. Et les acheteurs forcés, aujourd'hui, les États-Unis, je crois que c'est à peu près 40%, 40-50% de la valeur ajoutée créée dans le monde, mais c'est 75% de la capitalisation boursière mondiale. Aujourd'hui, c'est devenu systémique parce qu'en fait, l'intégralité des épargnants dans le monde entier sont investis aux États-Unis. Et donc, le jour où ce cycle naturel retrouve, c'est-à-dire une baisse de la rentabilité, de la concurrence, des hausses de moyens de production, ça va venir pressuriser tout un tas d'acteurs, y compris du côté des privés. Et ça pourrait venir peser fortement sur, en gros, les épargnants mondiaux.
C'est ce que dit ce rapport, oui, qui alerte à nouveau, parce qu'on en parlait de tout ça il y a un peu plus d'un mois, on en parle moins depuis. Ce rapport dit attention, tous ces risques sont encore là. Bon, ça n'empêche pas SpaceX de s'être introduit il y a maintenant un peu plus de deux semaines, et même d'aller plus loin, puisqu'on a appris la date de son entrée au Nasdaq 100. Ce sera dans quelques jours, le 7 juillet. Donc, ça nous amène 2, 3, 4, 5, mardi de la semaine prochaine. Voilà, ça c'est rapide pour une entrée dans le Nasdaq.
Magnifique. Ouais. Magnifique, encore un tour de force d'Elon Musk. On est dans un monde où, en fait, il y a eu des changements de règles. de la part du Nasdaq et on s'attend à des changements également sur d'autres indices. Le changement de règle, le principal, c'est ce qu'on appelait le fast track, la procédure rapide d'intégration dans l'indice. Normalement, pour être intégré dans un indice...
Il faut un an.
Il faut alors un an.
Là, c'est trois semaines.
Trois semaines, il faut un flottant minimum. SpaceX ne l'a pas. Mais SpaceX va quand même être intégré le 7 juillet dans le Nasdaq 100. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il va y avoir des acheteurs forcés de SpaceX. Toutes les personnes qui sont investies dans des ETF Nasdaq 100 vont devenir des acheteurs naturels de SpaceX. Et le tour de force, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a que 5% des actions totales qui ont été mises en circulation, ce qu'on appelle le flottant. 5%, dans le poids du Nasdaq, ça représenterait 0,1 ou 0,2%. Mais le Nasdaq a dit, comme c'est trop petit, on va multiplier par 3 le poids réel pour qu'il y ait plus de gens qui achètent les titres. Grosso modo, c'est ce qui va se passer. Et le tour de force, c'est d'intégrer si vite SpaceX dans l'indice. Ça veut dire que tout le capital qui va être largué, si je peux dire, au cours des mois prochains, va trouver des acheteurs forcés. Parce que les gens qui détiennent de l'ETF, les ETF qui sont indexés...
Et l'idée, c'est que ça compense et que ça permette au titre de tenir, même quand il y aura les ventes, les fameux lock-up, la fenêtre de vente. Exactement. De ceux qui étaient déjà au capital. Bah oui, mais ce sera compensé, ces ventes, peut-être par l'intégration dans les ETF et les indices. Ouais.
Et donc c'est magnifique, parce qu'en fait, normalement...
Si ça compense, à suivre.
En général, les lock-up, c'est 180 jours, 6 mois en gros de lock-up. Et c'est un one-shot, c'est-à-dire que les titres sont largués d'un coup. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 15 fenêtres de lock-up qui ont été établis jusqu'à la fin de l'année. Et on estime que d'ici septembre, il y aura à peu près 45% du capital qui va être acheté de force par les porteurs du Nasdaq.
Stat intéressante sur les introductions en bourse aux États-Unis. On s'achemine vers un montant absolument record sur le premier semestre. 251 milliards de dollars, avec évidemment l'éléphant dans la piscine,
bien sûr,
à savoir SpaceX. Mais voilà, on serait bien au-delà du record du premier semestre 2021.
Et en Chine aussi, un record d'IPO, notamment dans la tech à Hong Kong, de sociétés chinoises, parce que les Chinois investissent de plus en plus en bourse plutôt que par l'immobilier. Et ces sociétés tech chinoises, plutôt que de se fonder sur le private equity pour trouver des financements, parient sur la bourse. Juste dernier mots ensemble, Carl, sur une publication attendue cette semaine, demain soir aux États-Unis, Nike, demain soir. Ça a été compliqué, hein, les précédentes. Qu'est-ce qu'il faut attendre cette fois des trimestriels?
On s'attend toujours à des choses compliquées, c'est-à-dire qu'on s'attend à un chiffre d'affaires en baisse, je crois de 2%. On s'attend à des résultats en baisse de l'ordre de 6 ou 7% de mémoire. Nike paie les mauvaises décisions de la direction précédente, post-2020, qui a voulu rentrer dans ce qu'on appelle le direct consumer, le DTC, c'est-à-dire qu'on vend directement aux clients, parce que digitalisation du monde, et donc on n'a plus besoin de se passer des vendeurs de gros. Nike s'était coupé d'Amazon, c'est-à-dire qu'il ne vendait plus via le canal d'Amazon, ne vendait plus via JD Sport. Et en fait, Nike pensait avoir une position de force qui lui permettait de vendre directement au consommateur. Et ce qui s'est passé, c'est que le consommateur s'est détourné de ses produits. Et puis aussi également un effet en Chine, c'est-à-dire que... la Chine voit des marques émerger, concurrencer Nike, et plus ce côté déclin chinois qu'on note depuis quelques années. Merci. Et qui ne rebondit toujours pas.
Carl Edon pour Chollet-Dupont-Audard. Merci beaucoup, Carl. Après-demain soir, donc, la publication de Nike, Wall Street a ouvert. On est en hausse. Merci, Carl. Le S&P 500 gagne 0,8%. Le Nasdaq, plus 1,4%, qui a tant souffert le Nasdaq la semaine dernière. À Paris, on est à peu près stable, mitigé, mais à la hausse légèrement. Le CAC 40 gagne 0,02% en ce moment. Et Alexandre Aizé nous rejoint à 15h43 pour parler ensemble de l'avenir des marchés. Alexandre Aizé, stratégiste indépendant, bienvenue Alexandre.
Bonjour.
Vous allez rendre votre verdict là face au marché, ce verdict que vous allez rendre, ce moment qu'on va vivre ensemble. Est-ce que vous l'assumez?
Je l'assume.
Ah, on vous écoute.
Eh bien, nous sommes peut-être à l'aube d'un contre-choc pétrolier, comme on a vécu un peu dans les années 80.
Ah, peut-être le début d'un contre-choc pétrolier, parce que c'est vrai que les cours étaient envolés, là ils ont pas mal reculé. $73 en ce moment le baril de Brent, il a reculé le cours du pétrole, mais il recule plus. Vous pensez néanmoins que la baisse pourrait se poursuivre?
Alors, il ne recule plus pour l'instant, mais avec notamment les événements de ce week-end, on aurait dû avoir une prime de risque encore plus importante sur le pétrole, avec les reprises notamment des interventions. Et pourtant, le pétrole est assez stable. Alors, il remonte un peu aujourd'hui, il est autour de $70-$72 le baril, que ce soit sur le WTI payé un 3 dollars de moins. Mais on voit qu'il y a à la fois de manière globale, économique, macroéconomique, que ce soit en termes d'offres ou en termes de demandes, que ce soit en termes d'offres, on voit l'offre qui est en train d'augmenter assez rapidement de la part de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis aussi. On voit la réouverture du port de Ras Tanura qui permet effectivement, qui a été fermé pendant 4 mois et qui permet de délivrer encore de la production pétrolière. Et il faut rattraper absolument le retard pour ces pays-là. En même temps, on voit aux États-Unis le nombre de plateformes pétrolières qui continuent à monter de manière assez importante. On voit qu'on va avoir une profusion d'offres sur le marché. Rappelons quand même qu'avant l'intervention en Iran, l'AIEA pensait qu'il allait avoir une suroffre en 2027 de 3-4 millions de barils le jour. En fait, si on revient dans une normalité comme celle-ci, avec cette profusion de pétrole, on risque effectivement d'avoir des cours du pétrole qui vont largement baisser. En termes de demande cette fois-ci, eh bien on voit que quand même les pays comme la Chine, voire l'Europe, sont en train de décroître en termes de croissance économique. On va pas avoir une réaccélération comme on aurait pu avoir en début d'année, parce qu'il y a encore un doute, une prime de risque, effectivement, notamment de la part des entreprises. Et là, finalement, on va être dans une offre dans une demande qui va être contenue. Donc on risque d'avoir un déséquilibre. Et puis, troisième point qui me semble important, alors c'est depuis le départ, c'est le cas, même l'année dernière, mais c'est une volonté de Donald Trump de faire massivement baisser le pétrole pour plusieurs raisons. Effectivement, faire baisser l'inflation aux États-Unis. On sait que les matières énergétiques, le pétrole notamment, touchent en premier lieu les Américains dans les prix à la pompe. Et pour, en tout cas, gagner ou limiter l'échec des élections mi-mandat, il faut absolument qu'avant ces élections mi-mandat, il montre que son intervention en Iran a un effet marqué sur les Américains. Et puis en termes géopolitique aussi, on sait qu'il faut quand même le dernier point noir, en tout cas pour Trump, c'est le conflit en Ukraine, et ça permettrait en plus, comme les Américains l'ont fait dans les années 80, de mettre un peu plus de pression sur la Russie pour mettre un terme au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est important parce que ça voudra dire que de nombreux pays vont en profiter, on peut en parler en termes de marché, mais ça donnera une relance, en tout cas une dynamique supplémentaire au marché en dehors de ce qu'on a vu sur l'intelligence.
Mais à supposer qu'Hormuz rouvre réellement, que l'Iran n'essaie pas d'imposer au bout d'un moment un péage, parce que l'Iran a déjà prévenu ces dernières heures que les navires qui passeraient Hormuz est rouvert, mais les navires qui passeraient Hormuz par le point le plus éloigné de l'Iran, ça va mettre de la pression et peut-être rajouter de la colère. L'Iran tient à ce que les navires passent par ses eaux.
Alors, je rappelle qu'on est en situation de négociation.
Oui, c'est vrai.
Donc, on voit bien que les tirs que l'on a eus ce week-end sont aussi des pressions de part et d'autre. Donc, ouais. On va effectivement négocier. Rappelons quand même que potentiellement, il y aura un plan d'infrastructure de 300 milliards en Iran, potentiellement. Enfin, il y a des reconstructions qu'on va se faire. Et l'Iran a la main, mais pas tant que ça. Et de toute manière, elle devra céder sur quelques points. Et la réouverture, même pour l'Iran, des exportations de pétrole peut être aussi un point très important pour financer sa reconstruction.
Donc, vous misez, pourquoi pas, sur une poursuite à la baisse des cours du pétrole, qui ont déjà bien reculé, c'est vrai, au mois de juin. Il se trouve qu'on aura mercredi, là, après-demain, l'inflation du mois de juin en zone euro. Première estimation, vous l'attendez en baisse, l'inflation, avec les cours du pétrole qui ont baissé ?
Légèrement en baisse, mais pas assez pour complètement satisfaire le marché. Hein. On va, de toute manière, ce qui est intéressant, c'est savoir si on a passé un point haut ou pas, parce qu'on va, avec les cours notamment du pétrole, et même, alors même si ça ne se voit pas encore, la hausse de taux en Europe, on pourrait voir une descente graduelle de l'inflation qui serait quand même bien pour rassurer les investisseurs et notamment l'action de la Banque centrale.
Bon, il est temps de lire un peu clair dans les messages de nos banquiers centraux. On a quand même un Kevin Warsh qui a dévoilé un vrai visage de banquier central. C'est-à-dire que oui, quand l'inflation monte, on monte les taux. Globalement, il est beaucoup plus raisonnable que prévu. On attend beaucoup de Christine Lagarde au symposium de Sintra. Est-ce qu'elle aussi, elle va un petit peu tomber le masque et nous donner la vérité des choses, alors que après la hausse des taux de la BCE, ça laisse pas mal de questions?
Non, la principale, on va dire, le risque pour une banque centrale, c'est de ne pas être crédible. C'est-à-dire que quand on essaye de faire quelque chose, les marchés testent la banque centrale, qui après court après le marché. Et là, on peut être dans une situation assez terrible. Pour revenir sur Kevin Warsh, effectivement, il se dit, il se comporte comme un vrai banquier central. Il veut la crédibilité de la banque centrale. Donc il met quand même en place toute une réforme de la Fed, ça c'est sûr. Et quand il parle d'inflation, le vrai sujet, ça va être de savoir quelle inflation. On en avait déjà parlé dans plusieurs émissions, mais c'est est-ce que l'inflation va être modifiée, les calculs d'inflation vont être modifiés pour justement dire il n'y a pas d'inflation aux États-Unis. La baisse du pétrole pourra résoudre beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de calculs compliqués et complexes pour les banquiers centraux. Du côté de Christine Lagarde,
oui.
Elle a beaucoup été décriée, ça c'est sûr, pour cette hausse des taux. En fait, elle est clairement dans son rôle. Quand on voit notamment les chiffres de distribution de crédit aux entreprises cette semaine, on est à un niveau record. En tout cas, on est à près de 5% de croissance de la distribution de crédit en Europe. On n'est pas non plus dans une dynamique extrêmement baissière en termes de croissance économique. L'inflation est à plus de 3%. Évidemment qu'il faut que la Banque centrale réagisse. Alors, il faut qu'elle réagisse de manière graduelle. On n'est plus du tout on était dans une situation en 2022. Et à mon avis, dans son discours, et elle l'a déjà répété lors de la dernière réunion de la Banque centrale européenne, la Banque centrale est là pour gérer l'inflation. Elle n'est pas là pour gérer la croissance. La croissance, c'est les entreprises et les États. Donc, elle va en tout cas redonner le bébé aux États pour créer les conditions de la croissance. On va reparler certainement du plan gratuit de Draghi, de l'union bancaire, etc. Et ça, elle va appuyer dessus. Et elle est dans son rôle, en tout cas, pour monter les taux actuellement. On n'est pas dans des conditions extrêmement restrictives encore pour l'économie européenne.
Oui, si les taux de la BCE montaient encore, ce serait en fait un signal pour pousser effectivement les États, l'Union, la zone euro en tout cas, à assouplir ces règles de sorte de favoriser la croissance. Ce serait une façon de mettre la balle dans leur camp, voilà.
Exactement.
À vous de jouer plutôt que de compter sur nous, la Banque centrale.
Je pense qu'il y a eu un tort, notamment pour les marchés, mais aussi pour les différents gouvernements européens, c'est d'avoir toujours la Banque centrale qui était là en assurance, en financement potentiel contre, en tout cas pour lisser le cycle et éviter des récessions. Là, la Banque centrale dit nous ne sommes pas là que pour effectivement gérer de la croissance. Nous sommes en appui en gérant l'inflation, parce qu'il faut bien comprendre qu'une inflation importante peut être dévastatrice pour une croissance, ou en tout cas une confiance dans la croissance. Donc elle est là pour se gérer cette partie-là. Le reste doit être géré par, encore une fois, les plans de relance, l'union que l'on doit mettre en place au sein de l'Europe.
Bon, on verra ce qu'elle dit ce soir, donc discours inaugural à Sintra, mais surtout le grand moment, ce sera mercredi, table ronde à laquelle participera aussi Kevin Warsh, il y aura aussi le président de la Banque du Canada et le président de la Banque d'Angleterre. Ça vous fait sourire?
Effectivement, je pense que ça va être un dîner où les discussions vont être compliquées, parce que
à 14h,
le président de la Fed n'a pas du tout les mêmes volontés que les trois autres présidents, qu'ils soient Canada, d'Angleterre ou de l'euro.
C'est la question qu'on se pose, qui sera le plus mal à l'aise en fait, Kevin Warsh de devoir communiquer alors qu'il veut pas communiquer, ou la Banque Centrale Européenne par exemple qui a relevé ses taux, qui pourrait encore les relever alors que le pétrole baisse? C'est un peu la question qu'on se pose nous.
Mais... Alors on peut se poser la question, est-ce que un Américain actuellement peut être mal à l'aise, en tout cas à son poste? Je ne le pense pas. Je pense qu'ils sont véritablement certains de ce qu'ils sont en train de faire, de la stratégie qu'ils vont mettre en place. En Europe, en Angleterre, la situation est extrêmement compliquée, donc c'est difficile de, en tout cas, justifier une autre action que celle qu'elle a. Et Christine Lagarde peut apparaître effectivement comme l'entre-deux avec les autres banquiers centraux.
Bon, l'Europe, vous choisissez quelle valeur là désormais?
Alors,
en Europe,
effectivement, avec ce que je viens de dire, je pense que je suis plus positif sur l'Europe actuellement, et je pense que si on a une baisse des marchés, ça va profiter au marché européen. Alors évidemment, j'ai choisi deux valeurs européennes, deux grandes valeurs. Alors, une de mes chouchoutes, vous m'avez demandé les chouchoutes depuis longtemps, Schneider Electric. C'est vrai que Schneider Electric, qui est connu, mais on parle de fleurons aux États-Unis, mais en Europe, on a des fleurons vraiment et des entreprises mondialisées. Schneider Electric, c'est quasiment un tiers aux États-Unis, un tiers en Asie, et puis l'autre partie en Europe. Donc vraiment mondialisé. Des marges extrêmement fortes. On est à peu près à 18,8% de marge, et la marge se stabilise alors qu'on est dans une croissance de volume. Et surtout, 23% du chiffre d'affaires qui est directement lié au data center, dans sa gestion et l'efficience de l'énergie. Et là, il y a une visibilité avec les hyperscalers qui n'a jamais été démentie et qui ne sera certainement pas démentie pendant plusieurs années. Donc, on a vraiment une valeur de croissance qui attire les investisseurs, qui est mondialisée. Et c'est assez rare quand même d'avoir des entreprises comme Schneider Electric et qui peuvent, sur tous les marchés, à la fois en Asie, en Europe ou aux États-Unis, montrer des potentiels de croissance et d'innovation importantes.
Bon, Schneider Electric, donc votre choix. Depuis le début de l'année, ce titre, il progresse hein, évidemment de 18%. Vous estimez qu'il doit aller beaucoup plus haut. Et sur un an, on est à plus 20.
Ouais, c'est bien. Ouais, plus 20 sur un an par rapport à une valeur d'une telle qualité, je pense qu'il y a encore du potentiel.
Ok, sur trois ans, on est à plus 71%. Une deuxième valeur ?
Alors une deuxième valeur qui, dans un portefeuille, permet aussi de stabiliser par rapport à Schneider Electric, hein, c'est AXA. Alors AXA, effectivement, tout le monde connaît, mais je pense que le secteur de l'assurance, au vu des taux d'intérêt, mais surtout de l'implication dans l'intelligence artificielle et dans l'amélioration de l'efficience de tous les business de l'assurance dans les prochaines années, c'est une valeur qu'il faut garder en portefeuille. C'est une vraie cash machine, un dividende qui est à plus de 5%. Et qui est complètement décorrélé d'une certaine manière d'une valeur comme Schneider et qu'il faut avoir en portefeuille. Il y a une gestion des coûts qui est en train d'être fait et qui va être fait, qui va encore une fois améliorer cette rentabilité. Et AXA, c'est de la croissance sur le dommage et l'assurance vie. À peu près tous les segments d'activité d'AXA sont en croissance et ça devrait perdurer en tout cas pour les mois prochains.
Merci beaucoup. Alexandre Aizé avec nous aujourd'hui. Deux idées de valeur, AXA donc et Schneider Electric. Le CAC 40 est en repli très léger. Une séance presque pour rien sur l'indice parisien, moins 0,06%. Saint-Gobain, Lanterne Rouge perd 3%. Thales, Dassault Systèmes, Publicis, signent les trois plus fortes hausses.
BFM Bourse, Culture Bourse.
La bourse sur mesure, c'est Culture Bourse, votre rendez-vous avec vous-même chaque jour. Vous confrontez vos envies d'investir au marché grâce à Julie Connerton et ses experts. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Si vous vous interrogez pour arbitrer vos portefeuilles, vous connaissez l'adresse cbfmbourse@bfmbusiness.fr et ce sublime QR code qui va apparaître sur vos écrans.
Julie, cette question sur l'un des rois des actifs refuges.
On parle souvent de l'or comme un rempart contre l'inflation, mais il y a un autre actif qui suscite beaucoup d'intérêt en ce moment, le franc suisse. Et Alain, qui nous a écrit, il se demande s'il possède finalement ce même pouvoir stabilisateur que l'or et comment l'intégrer en portefeuille. On pose la question aujourd'hui à notre expert. On retrouve Bertrand Lamiel pour Ports en Part Gestion. Bonjour Bertrand, merci beaucoup d'être à nos côtés. Bertrand, comment vous analysez cet attrait pour la devise helvétique face aux valeurs refuges traditionnelles?
Alors déjà, quand on parle de valeurs refuges, il faut prendre ça avec des pincettes parce que globalement, qu'on prenne l'or ou le franc suisse, ils ont des qualités de valeurs refuges mais qui ne sont pas constantes dans le temps. Et donc, on leur prête en fait beaucoup plus de qualités qu'ils n'en ont réellement. Parce que si on regarde la réalité sur l'or, par exemple, on a une corrélation en ce moment là avec le marché action qui est de l'ordre de 87%, qui extrêmement élevé, et en fait, qui, concrètement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, l'or se comporte quasiment comme le marché. Alors, qu'on essaye, quand on parle de valeur refuge, d'avoir quelque chose qui viendrait contrebalancer un autre mouvement. De manière générale, avoir du franc suisse dans son portefeuille, quand on regarde sur du long terme, c'est plutôt porteur, puisque ça a généré des gains de change pour les porteurs de franc suisse. Après, le sujet va être, oui, mais du franc suisse pour du franc suisse, en fait, c'est juste pour avoir du monétaire suisse. On passe globalement quand même à côté d'opportunités sur le marché action. Donc, il faut aller après choisir de bonnes valeurs libellées en franc suisse. Et comme je le disais, faisons attention parce que sur les derniers mouvements où le marché a swingé un peu fort, l'or et le franc suisse ne se sont pas révélés être des dossiers qui venaient contrebalancer la baisse des marchés actions. Donc, sur le principe, sur le long terme, oui, il y a du sens à en avoir. C'est des corrélations qui sont assez faibles. Maintenant, quand le marché prend un choc, on le remarque de plus en plus ces dernières années, il y a une recorrélation de l'ensemble des assets. Donc, que vous déteniez de l'or, du franc suisse ou je ne sais quelle autre monnaie, il y a fort à parier que, par exemple, dans celle qu'on a connue en février-mars, là, tout se recorrèle et malheureusement tout baisse en même temps.
Alors, est-ce que vous pensez, Bertrand, que le franc suisse peut être un vrai substitut à l'or? Et dans le cas échéant, comment doser cette exposition?
Vrai substitut à l'heure, non. En fait, je ne le reconnais malheureusement, mais c'est les faits sont têtus, hein, c'est des stats. Hein, c'est en regardant les corrélations et l'évolution de ces corrélations, qui ne sont pas constantes dans le temps. Qualité de valeur refuge assez faible. Donc, encore une fois, en avoir ça a du sens, mais quand on le voit là sur l'or, il est en train de rebaisser, et donc on n'est pas en train de parler de valeur refuge, puisqu'on a quand même des volatilités qui sont relativement importantes.
Bertrand Lamiel qui va nous accompagner dans un instant. En améliorant peut-être un peu la liaison, la connexion, Bertrand, commencez à vous perdre là sur les 30 dernières secondes. À tout de suite, le CAC 40 est en petite baisse là de 0,07%. Saint-Gobain perd 2,8%. Et pas mal de changements d'avis d'analystes aujourd'hui dans le marché. On y consacre aussi un article à ces recommandations du jour sur notre site BFM Bourse. L'article est en ligne actuellement. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Antoine. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.